Supposez qu'au cours d'une promenade, vous trouviez un livre là, sur le bord du chemin. Vous le ramassez et vous vous mettez à le feuilleter. Tout d'abord, vous pensez qu'il s'agit d'un roman de science-fiction, car il semble décrire des faits qui ne peuvent s'être produits que dans l'imagination de son auteur. Puis vous vous rendez compte que ce n'est pas un roman, mais une sorte de chronique historique, annonçant des événements qui doivent arriver. Et ce qui vous étonne le plus, c'est que certains de ces événements doivent se manifester à très court terme, d'autres dans plusieurs années seulement. Vous vous dites, c'est l'œuvre d'un fantaisiste qui a donné libre cours à son imagination, et vous n'y pensez plus. Mais quelques jours plus tard, vous constatez que les choses se passent selon les prédictions de ce livre. Ce chef d'État assassiné, cette épidémie dans tel pays, cette guerre qui éclate entre deux nations, tout cela est trop précis pour n'être que pure coïncidence. Et ce livre prend soudain à vos yeux une grande valeur. Vous vous mettez à le relire, mais cette fois avec respect et même avec foi, car maintenant vous êtes convaincu que les choses qu'il annonce se produiront effectivement. Loin de moi l'idée de mettre en valeur par cette parabole les prédictions des voyantes, des cartomanciennes ou des horoscopes. Mon propos n'est pas là, et j'espère qu'il n'y aura personne parmi mes auditeurs qui voudra perdre son temps à me décrire les réalisations troublantes dans sa vie de telle ou telle prédiction. J'aurai alors la désagréable certitude d'avoir moi aussi perdu mon temps. Ce que je veux souligner, c'est le fait qu'en ouvrant la Bible, nous faisons virtuellement la même découverte extraordinaire que j'ai imaginée plus haut. La Bible contient en effet de nombreuses prophéties qui se sont réalisées pleinement, souvent même avec un luxe de détails stupéfiants. Il y en a aussi qui attendent encore leur réalisation. Examinons le cas d'un Israélite vivant en Palestine à l'époque où Tibère régnait sur Rome et Ponce Pilate le représentait en tant que gouverneur de la Judée. Il est évident que le Nouveau Testament n'existait pas encore en tant que document écrit. Le seul livre saint que ce juif avait à sa disposition et qu'il connaissait depuis son enfance, c'était l'Ancien Testament. Il connaît l'histoire de son peuple telle que ce livre la rapporte, les patriarches vénérés, Abraham, Isaac, Jacob, puis Moïse, le grand libérateur et législateur. Il connaît surtout la gloire d'Israël au temps de David et de Salomon. Et ce souvenir lui est d'autant plus poignant que son pays est occupé par les Romains. Mais son cœur est rempli d'une grande espérance. Le Dieu qui a été la force de ses pères, qui a délivré les anciens Hébreux du joug égyptien et qui a protégé son peuple par des miracles inouïs, a aussi promis à David, dans sa vieillesse, qu'un de ses descendants aurait un règne éternel. Et parce que Dieu n'avait jamais failli à ses promesses, les Israélites attendaient ce fils de David, en espérant secrètement qu'il chasserait l'occupant romain et rétablirait la gloire d'antan. Notre Israélite connaît tous ces textes relatifs à la venue du fils de David. Ils nourrissent sa tension messianique. Le prophète Ésaïe était souvent cité à cet égard dans les synagogues. Entre autres déclarations, le grand prophète avait dit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel », ce qui signifie « Dieu avec nous ». Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, disait encore Ésaïe. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et même le lieu où devait naître le Messie était précisé par les prophéties. D'ailleurs, lorsqu'Hérode chargea tous les experts du royaume d'examiner les Écritures pour savoir où devait naître le Christ, ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète, et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Nous savons en effet que le Christ est né à Bethléem, de sorte qu'on aurait dû l'appeler Jésus de Bethléem. Mais comme il fut élevé à Nazareth, c'est à cette bourgade que son nom resta attaché. C'est pourquoi on avait peine à croire que Jésus pût être le Messie annoncé par les prophètes. Les ressortissants de Nazareth avaient par-dessus le marché une assez mauvaise réputation. Lorsque notre Israélite lit ces textes dans sa Bible, il sait qu'ils sont là depuis plusieurs siècles déjà. Mais il ne sait pas encore que certaines prophéties sont déjà accomplies, que d'autres sont en train de s'accomplir et que bientôt tout sera accompli. En effet, un personnage singulier se manifeste parmi la foule. Il s'appelle Jésus et on dit qu'il vient de Nazareth. Notre Israélite entend ses prédications Et comme tous ses contemporains, il est impressionné en entendant ce jeune maître discourir avec autorité et non pas comme les scribes, rabâcheurs et ennuyeux. Comme tout le monde, il se demande si ce n'est pas lui le Christ annoncé par les prophètes. Plusieurs déclarations du jeune maître sont susceptibles de le mettre sur la voie. Un jour que Jésus était à Nazareth, il se rendit à la synagogue, il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont leur cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Et on put l'entendre faire cette déclaration « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Une autre fois, on l'entendit s'exclamer du milieu de la foule « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Bientôt, les événements se précipitent. C'est la trahison, c'est l'accusation, c'est la condamnation à mort, le supplice de la croix, l'ensevelissement. Alors, si notre Israélite veut s'en donner la peine, il repassera dans son esprit tous les détails de cette brève carrière, et les textes sacrés correspondants surgiront dans son esprit comme une révélation fulgurante, tout particulièrement la fin du chapitre 52 d'Ésaïe et le chapitre 53. Il y a là 15 versets en tout, qui traversent 7 siècles d'histoire humaine, pour trouver en Jésus de Nazareth leur explication, leur réalisation, leur substance. Chers amis, donnez-vous la peine de relire ces textes-là. Même dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez pas un résumé à la fois plus succinct et plus complet de l'œuvre du Christ. Il y est décrit comme le serviteur de Dieu méprisé et abandonné des hommes, dédaigné et souffrant. Il a été maltraité et opprimé, dit le prophète, comme si l'événement s'était déjà produit. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Et notre Israélite se souvient de l'attitude soumise, étonnamment résignée de celui qu'on menait au supplice. Mais qui a reconnu en lui le Messie? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est aussi le cri d'accusation et d'angoisse du prophète. Ésaïe précise encore, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Comment le prophète pouvait-il savoir qu'il serait crucifié entre deux brigands, comme s'il eût été coupable des mêmes crimes? Le prophète révèle encore, on a mis son tombeau avec le riche. Comment a-t-il pu savoir que Joseph d'Arimathée, un homme riche, déposerait le corps du crucifié dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc? Comment le prophète a-t-il pu connaître ces détails quelques 7 siècles avant leur réalisation? Mais notre Israélite ne s'attarde pas à ces questions. Il sait que c'est dans l'ordre des choses. Ésaïe n'avait-il pas dit de la part de Dieu « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. » Ce qui était merveilleux et terrible à la fois, c'est qu'il était le témoin en son temps des plus grandes réalisations prophétiques, puisqu'elles concernaient le Messie, le fils de David, le Sauveur. D'autres détails affluent à sa mémoire. Il se souvient de ce texte du psaume 22, jusqu'alors si obscur, si mystérieux, mais terriblement significatif à présent, éclairé qu'il est par les événements récents. « Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Combien ce texte était clair à présent. Et on ne peut certes pas dire que nous sommes ici en présence de coïncidences, ni que ces textes ont été rédigés après les événements auxquels ils font allusion. L'Ancien Testament, que lisait notre Israélite, était tel que nous l'avons encore aujourd'hui, et existait déjà dans cette forme définitive depuis plus de 4 siècles. Or, si Jésus de Nazareth correspond si étroitement, si parfaitement, tant dans sa vie et son message que dans sa mort, à ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament, deux alternatives se proposent à l'esprit. Ou bien il est réellement le Messie, l'envoyé de Dieu pour sauver le monde du péché, et l'Ancien Testament qui annonce sa venue des siècles à l'avance est indiscutablement inspiré de Dieu, ou bien il ne s'agit que de pure coïncidence dans les grandes lignes que l'on pourrait relever en cherchant bien dans la vie d'autres personnages dans l'histoire. On voit combien cette dernière éventualité n'est en fait qu'un prétexte habile et désespéré pour ne pas avoir à regarder la vérité en face avec ses conséquences. Quelques semaines après la mort de Jésus de Nazareth, Notre Israélite entend proclamer partout cette chose inimaginable, insensée même, ce suprême défi à la raison, il est ressuscité. Et ce sont des Juifs qui affirment cela. Sur quelles preuves se fondent-ils pour affirmer une telle chose? Sur les écrits des prophètes d'abord, et sur leur témoignage personnel, car ils disent l'avoir vu, entendu et touché. Le premier discours des apôtres de Jésus est sur ce point une véritable démonstration, et notre Israélite y est sensible, car ils font appel au prophète Joël, et puis à David, pour prouver que ce dernier a prévu et annoncé la résurrection du Christ, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Notre Israélite se souvient bien de ce passage dans les psaumes, et il entend les apôtres déclarer « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins ». Et c'était une démonstration suffisante. À l'instar du soldat au pied de la croix, impressionné et convaincu par les événements, notre Israélite pouvait dire avec des milliers d'autres « Assurément, celui-ci est fils de Dieu ». Nous pourrions multiplier les exemples pour souligner encore le fait que la Bible possède en elle-même les preuves de son origine divine. Elle est la parole de Dieu. Chers amis, comme le promeneur de notre parabole avec son livre extraordinaire, sachons redécouvrir la Bible pour l'aimer davantage et vivre par elle. Sachons surtout respecter ses avertissements, car Dieu annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils doivent se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par le Christ. Et c'est d'après l'accueil que nous aurons réservé à sa parole, à son évangile, que nous serons jugés. Dieu, par les anciens prophètes, avait annoncé que le Messie viendrait, et le Messie est venu. Dieu nous annonce aujourd'hui qu'il reviendra, et nous pouvons être sûrs qu'il reviendra comme il l'a promis. Sommes-nous prêts à l'accueillir ?